Bonjour à tous, bon réveil, bon matin. Vous êtes sur Radio B et pour la dernière émission des rencontres des 40 plus 1 an de Bécourt, nous aurons au programme une chronique autour de l'alimentation en camp et de comment s'organiser avec les régimes spéciaux. Delphine et Claire nous font part de tous leurs trucs et astuces. Nous aurons aussi une chronique autour de l'histoire des luttes avec Notre-Dame-des-Landes. La suite et troisième chronique autour de la contraception sera sur le sujet de la vasectomie. Michel nous présentera ce qu'est l'AAEE. Raymond Derouin nous lira un texte écrit hier avec plusieurs autres participantes et participants à ces rencontres. Et vous retrouverez bien sûr les chroniques habituelles, les petits mots, t'as le look, MTTL et conseils et clés, et bien sûr nos incontournables éboueuses. Bonne écoute, bon réveil.
Et oui, c'est le dernier jour des 40 plus 1 an de Bécourt. Vous êtes encore en train de bruncher a priori sous la giga. Et pendant ce temps, vous êtes invité à faire un bilan individuel de l'événement. C'est le dernier jour, mais ça n'est pas encore fini. L'escape game fonctionne toujours aujourd'hui jusqu'à 13h. Et pendant toute la matinée, il y a la foire de Bécourt, une sorte de vide-grenier et de marché 100% éclé. Des producteurs, artisans, artistes éclés, présents et présentes parmi nous. Notamment, vous avez la vente de l'intégralité des décos, accessoires, déguisements et mobiliers de l'événement. Et puis aussi un certain nombre de productions par des éclaireuses ou par des éclaireurs dans leur vie en dehors des éclés, notamment de la bière, du pastis, de la sérigraphie, du travail du bois, des créations textiles et des maraîchers. N'hésitez pas à aller voir la foire éclée. C'est aussi le dernier moment pour profiter du bar et aussi récupérer éventuellement vos sous sur votre carte du bar ou en faire don à Bécourt. La ludothèque fonctionne toujours, mais plus pour très longtemps. À partir de 13h30, grand temps fort de clôture, enterrement de la time capsule de vos souhaits pour Bécourt pour les 10 ans qui viennent. Et à partir de 14h, le grand jeu scout du démontage, du rangement et du nettoyage. Ne partez pas avant ça, on a besoin de vous. Et si on est tous et toutes très très forts, à 16h, tout ça est plié et l'équipe d'Orga peut se reposer. On passe maintenant à la dernière programmation de Radio B.
Alors, on s'est rendu compte hier soir, samedi, qu'en fait l'émission de samedi matin avait été coupée et exportée partiellement. Vous n'avez eu droit qu'à 20 minutes sur une heure d'émission. Ce qui a pu vous donner l'impression légèrement agaçante d'entendre tout le temps la même chose en boucle. C'était une erreur d'export du fichier, sans doute due à la fatigue et à des progrès techniques restant à réaliser. Et donc on vous présente nos excuses et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur le site de Galilée, sur galilee.eedf.fr/wp/radio-b. Promis, il y a plus de choses que les quelques sujets que vous avez entendus en boucle toute la matinée hier.
Ouais, Radio B.
Alors, la question des régimes spéciaux, c'est souvent une grande question sur des camps ou sur des événements. Du coup, on avait envie d'en causer là aujourd'hui. Et du coup, il y a Delphine et Claire qui sont avec nous, qui font toutes les deux de l'intendance sur différents trucs. Peut-être que vous pouvez un peu raconter ça déjà pour commencer.
Moi, je me passionne pour l'intendance depuis quelques années. Et quand j'ai l'occasion, je m'occupe de ça sur des camps d'été. Sur des rassemblements thématiques, médiévales, sur des formations BAFA, enfin voilà, sur pas mal de choses, intendance sur feu, végétarienne, végétalienne, un peu de tout.
Mais moi, depuis que j'ai arrêté d'être expo et directrice, je fais de l'intendance sur les camps, voilà, et puis à l'occasion, sur les rassemblements régionaux. J'aime beaucoup aussi ce rapport à l'alimentation et au relationnel, finalement, qui se joue là-dedans.
Pour moi, ce truc d'alimentation, là, il y a un truc de comment est-ce qu'on fait pour prendre soin du groupe. Enfin, moi, c'était un des trucs qu'on m'avait transmis quand on avait commencé à faire des trucs d'alimentation, c'est de se dire, mais en fait, c'est pas qu'une question de juste nourrir des ventres. Quoi. Il y a plein de choses qui se passent en plus de ça, notamment en termes de prendre soin des gens en termes physiques. C'est-à-dire que, faut que les gens puissent continuer leur journée les unes à la suite des autres, surtout quand il y a des moments un peu où on se met en jeu, quoi. Et aussi de prendre soin du collectif dans, quand on se retrouve dans des dynamiques collectives, notamment en camp ou dans, sur des événements, quoi.
Moi, j'essaie de voir s'il y a possibilité de faire des menus qui incluent tous les régimes, notamment sur les séjours courts, en fait. Si jamais il y a plusieurs personnes qui ne supportent pas le lactose, le gluten ou quoi, sur 5-6 jours, je ne pense pas qu'on risque de carence majeure. Et puis, ça fait pas mal de découvertes, mais on va proposer pour les plats, en tout cas, pas pour les petits-déj ou quoi, mais pour les plats, plutôt que d'utiliser de la crème fraîche, partir sur des crèmes végétales. Ça change pas forcément trop le goût et ça permet de gagner un repas, une manipulation. Et puis après, pour la question viande, pas viande, si la viande n'est pas mijotée avec les légumes ou quoi, elle peut être servie en plus, à part. Et je joue beaucoup avec les légumineuses aussi pour l'équilibre. Et qu'on soit végétarien ou pas, on peut manger des légumineuses et puis une part de viande ou quoi. Enfin, comme tu disais, c'est aussi une question de plaisir. Moi, j'inclus aussi beaucoup la découverte sur les séjours, parce qu'on découvre plein de choses, mais aussi, pourquoi pas, des choses sur l'alimentation.
Un enfant qui mange bien et qui prend plaisir, il passe un bon camp, même si le grand jeu est raté, même si... voilà. Et puis aussi sur les habitudes, à la fois trouver un juste milieu en fait, entre découvrir des choses... mais en même temps, ne pas trop s'éloigner des habitudes qui peuvent déstabiliser. Parce que les enfants qui mangent de la viande, finalement, chez eux tous les jours, ils risquent d'être déstabilisés s'ils n'en ont pas du tout. Et du coup, pas être bien non plus. Donc voilà, je pense que y a les régimes spéciaux, mais il y a les régimes de chacun, finalement. Enfin, il n'y a pas de régime, quelque part, il n'y a pas de régime spéciaux. C'est chacun qui a des habitudes alimentaires. Et comment respecter l'habitude de chacun, y compris ceux qui mangent de la viande, ceux qui mangent sans lactose, ceux qui mangent... voilà, donc à la fois, parfois, faire des menus qui correspondent à tout le monde, et parfois, faire des menus où chacun s'y retrouve dans ses habitudes aussi, quoi. Ça engrange, pour moi, l'importance de, en début de camp, de discuter avec chacun, parce que souvent, les régimes spéciaux, c'est, actuellement, en tout cas, c'est plutôt les respos qui ont eu une réflexion et qui ont abouti à avoir un régime particulier. Et du coup, de savoir un peu leurs habitudes, parce qu'en fait, un sans lactose ou un sans gluten, il n'a pas les mêmes habitudes. Parfois, il peut tolérer du gluten, du coup, dans certains trucs où il va craquer, quoi. La charlotte, il va craquer, et c'est pas grave pour une fois. Mais de savoir un peu tout ça pour se dire, bon, là, je fais un truc super bon, c'est pas grave, tout le monde en aura parce que ça passe. Ou alors là, bon, il faut adapter pour lui parce que...
Ou tu cherches des boudoirs à l'épeautre complet.
De prendre en compte chacun pour moi aussi me faciliter les choses quelque part quand je le fais.
J'aime bien jouer aussi sur tout ce qui est au choix des salades composées où au lieu de tout mélanger, tu fais en buffet, quoi, comme ça.
Où chacun pioche ce dont il a besoin.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mm-hmm. Et je crois que c'est des repas comme ça vers lesquels je vais tendre beaucoup sur les camps, parce que c'est ce que tu dis, des habitudes alimentaires, parce qu'il y a des enfants, ils savent que c'est bon de manger des légumes ou des fruits pour eux, mais ils supportent pas la tomate ou le concombre cru, et en été, il en revient assez souvent, quoi.
Oui, c'est un peu le parti pris qu'on a eu sur le brunch, là, sur les 40+. Et sur un camp, c'est possible aussi, oui.
Sur les petits-déj, on y arrive en général à faire des trucs comme ça. On sort un coup des céréales, du pain, des laits différents, des jus de fruits, plusieurs goûts, confitures plusieurs goûts. Alors pourquoi sur les repas, on ne pourrait pas? Et après, moi je ne trouve pas ça trop difficile, je ne sais pas toi Claire, peut-être c'est l'habitude ou quoi, mais de prendre en compte les gens, justement, c'est passionnant, quoi.
Disons que quand c'est arrivé au début, oui, ça, forcément ça bouscule parce qu'on n'était pas habitués, c'était tout le monde pareil. Et puis c'est vrai que voilà, maintenant avec l'habitude, en fait, oui, c'est pas si compliqué. Ça demande effectivement plus de réflexion, d'adaptation et de temps quand même. Mais ça devient normal finalement de le faire, quoi. Voilà. Et donc on est parfois plus nombreux ou on s'organise en fait logistiquement aussi en fonction, quoi.
Et est-ce que vous avez des conseils à donner à des gens qui voudraient commencer à faire ça?
Moi, je sais que j'utilise, je commence à mes menus par des bases végétaliennes sur lesquelles je rajoute des choses. Et ce qui permet, en fait, de ne pas avoir beaucoup de manipulations supplémentaires. Et par exemple, je ne sais pas moi, sur un équipage où on aurait un enfant qui a un régime végétalien, un végétarien et un qui mange de la viande, bah, on peut avoir suffisamment de haricots rouges pour faire des steaks végétaux. Bah, des fois, on met des œufs, d'autres fois, non. Bah, là, on peut dire, bon, mais pas d'œufs. Du coup, c'est pareil, végétalien, végétarien. On peut avoir le nombre de steaks hachés qu'il faut pour ceux qui mangent de la viande. En fait, moi, ça me permet de gagner du temps parce que je fais toujours 1000 choses et je bosse comme ça.
Après, c'est bien d'anticiper avant et de trouver des recettes qu'on a testées aussi sur des goûters véganes ou des choses avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de cuisiner, mais qui sont simples et qui peuvent convenir à tout le monde. Ouais, l'anticipation, c'est le maître mot. Voilà, et puis de partager avec des gens qui font aussi, ouais, effectivement, pour avoir des recettes, des trucs.
Et c'est vrai que le petit tips d'avoir les goûters véganes, c'est génial.
Les goûters véganes, c'est top parce qu'il n'y en a qu'un.
Et du coup, ben ouais. Voilà.
Et puis les enfants, ils ne s'aperçoivent pas forcément qu'il y a du lait végétal à la place du lait de vache où ça se cache, quoi.
Voilà. Oui. Ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses en fait, qu'on peut faire. Et en fait, ça, typiquement, les laits végétaux, ben, en fait, ça marche très très bien. Et pour plein de trucs, ça remplace très très bien le lait, quoi.
La béchamel.
Ouais, ouais. Voilà, typiquement, ce genre de truc. Quoi.
Ouais. Oui, puis tu peux même faire des béchamels maïzena et végétales, t'as même pas de beurre ni rien. Enfin, y a des tas de trucs et je peux faire de la pub. les gourmets oubliés ont commencé à écrire un petit livret qui aide là-dessus pour tout ce qui est remplacement, pour aller vers une végétalisation des menus. Mais ça peut être utilisé à toute fin, des fois, ne serait-ce que pour des soucis de conservation, quand on a une itinérance. On n'a pas toujours le beurre sur soi. Bah, comment on peut remplacer le beurre dans des recettes pareil pour sa crème fraîche, épaisse, bah, on prend autre chose. Voilà. Ou les œufs. Dans ton sac à dos, c'est pas simple d'avoir des œufs pour faire tes crêpes. Mais en fait, tu peux quand même faire des crêpes en bivouac, juste avec de la maïzena, des plantes sauvages et un peu de farine.
Pour des gens qui, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de cuisiner végétarien ou vegan, souvent ce qui manque, c'est surtout des recettes, en fait.
Oui.
Et
oui.
Que c'est beaucoup ça qui manque, parce que, ben, en fait, il faut réinventer des choses. Et puis, ne serait-ce que de savoir, par exemple, que, ben, oui, il faut mettre des légumineuses dans tes plats avec tes céréales, quoi. Et que, ben, en fait, si tu te dis, ah, pour remplacer de la viande, ben, je vais mettre des petits pois. Bon, ben, ça marche pour un repas, mais peut-être que sur une semaine, ça marche moins bien, quoi. Enfin, ça aussi, il faut qu'on arrive à transmettre ces savoirs-là pour vous permettre à un maximum de gens à pouvoir s'approprier ces savoir-faire, quoi.
Ouais, on n'a plus qu'à écrire toutes les recettes qu'on est.
Mais... Non, mais je crois qu'on n'y change pas assez, hein. Effectivement. Mmh. Hein, chaque intendant fait ses menus dans son coin et finalement il y a peu de partage et je pense que c'est ça aussi qui manque parce qu'en fait il y a plein de gens qui ont des savoirs qui pourraient être davantage partagés sans qu'on réinvente toujours les choses et qu'on réfléchisse chacun dans son coin.
Non, après en formant un petit peu les respons à l'équilibre alimentaire, il est possible d'impliquer les enfants. Nous, on a de la chance de les voir toute l'année. Donc, on peut, avec eux, faire les menus et avoir ce côté un peu rassurant. Puis après, bah, s'amuser à déconstruire un petit peu aussi avec eux, changer bah, les frites. On va faire des frites de potimarron plutôt que de pommes de terre, où on va panacher, enfin, voilà, pour leur faire voir d'autres choses, mais en partant de ce qu'eux ont l'habitude de manger. Ça marche plutôt pas mal. J'ai eu des éclés. La dernière fois, quand je leur donnais les paniers, ils disaient « Ah ouais, trop bien, des burgers !» Et je leur dis, avec une mine un peu de contrite, « Ouais, ils sont végétariens. » Puis ils me regardent, ils font « Mais c'est trop bien !» D'accord, cool. Parce qu'ils avaient déjà mangé des petites croquettes de haricots rouges sur notre rassemblement. Ils avaient bien aimé, donc ils étaient super contents de faire ça. Puis on leur explique aussi pourquoi on ne mange pas de la viande tous les jours. Il y a des questions environnementales et de provenance. Et quand il y a de la viande, moi j'essaie de leur dire, ouais, mais c'est le boucher qui a 3 km là, qui fait ça. Mmh. on leur raconte comment c'est fait et tout, et ils sont super heureux. Et ils se disent, ouais, c'est quand même mieux ça qu'une viande, on ne sait pas trop, pleine de protéines, de soja ou on ne sait quoi. Et en général, ils sont assez sensibles. Après, ils se jettent sur la viande du boucher. Nous, sur un rythme de viande tous les 3-4 repas, et pas en de grandes proportions, il n'y a pas de réaction négative des lus, 6-8, des loups. Jusqu'à 11 ans, pas trop de réactions. Les éclés, bon, c'est un âge aussi où ils s'expriment plus, c'est à mieux. Ils prennent position. Ils vont râler, enfin pas râler, mais dire un peu plus clairement qu'ils auront envie de plus ou quoi. Donc là, ça amène le débat. Mais moi, je trouve ça super intéressant que sur les plus jeunes, il n'y ait pas d'habitude ancrée. Et que sur un camp, même s'il y a une journée où il y a de l'œuf à la place d'avoir de la viande, ou du fromage, ou des légumineuses, ou tout ça, ça passe tout seul, parce que le plat est bon, parce qu'ils ont cuisiné eux-mêmes, parce que... Et je trouve ça cool, ouais, de travailler avec les plus jeunes, en fait, là-dessus.
Ouah, ça date. Mais c'est quand le prochain?
Le prochain, c'est le grand bivouac. Au programme, itinérance, autonomie des jeunes, technique de camp, transition écologique et scoutisme pour toutes et tous.
Ouah, ça donne trop envie. Mais c'est quand?
Bon, ça démarre en 2022 et le grand rassemblement est prévu à l'horizon 2023-2024.
Mais pour le construire, on a besoin de toi.
Et toi aussi là-bas qui est en train de manger tes œufs brouillés.
Et de toi qui bois ton café.
Et de toi qui est en train de te réveiller.
Et aussi de vous tous qui nous écoutez.
Rejoins vite notre équipe ultra motivée.
Toutes les infos sur les panneaux d'affichage du déco.
T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. T'as le look, Coco.
T'as le look qui te colle à la peau.
Feu sur le quartier général.
Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau.
Donc Pascal, donc l'histoire de cette tenue.
T'as raté quand même les cheveux.
C'est
pas pris les bons.
C'est couillon parce qu'en fait c'est ma femme qui adore aller faire les brocantes. Et là l'occasion était trop belle avec Bécourt de trouver des vieux machins, des fringues, des trucs, tout ce qu'il peut y avoir de plus ridicule.
Donc parce que là, chers auditeurs et auditrices qui ne voyaient pas, c'est l'inconvénient de la radio, donc Pascal porte un pantalon noir un peu ample, en matière un peu douce, non? Un peu. Comment c'est quoi cette matière?
Synthétique.
Du synthétique, voilà, on peut le dire. Ensuite, au-dessus, une sorte de tunique rouge, or et violette à bandes, avec des petits boutons rouges au milieu, avec un côté...
C'est un peu indien, non?
Assez près du corps, droit, coupe droite. Voilà. En tout cas, ça n'est ni or ni léopard. Donc, c'est là où le.
Ça.
Alors, il y a un peu de or. Il y a du jaune.
C'est trésorier. Donc
oui,
c'est
trésorier.
Ah, trésorier, or. De l'or. Okay.
Trésor.
Il n'a pas pris la bonne perruque qui était en or.
Donc, il a une perruque noire et blanche. Plutôt, le thème, ça fait Cruella.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà. Et donc.
Mais dans le sac des déguisements, il y a 10 perruques et voilà, j'ai pas eu de peau, j'ai pas pris la bonne.
Tu t'es trompé, quoi.
Ouais.
L'erreur, l'échec.
Ouais. Ouais. Voilà.
Mais du coup, c'est vrai que, disons que tu tranches par rapport aux autres, tu te démarques de tous ces gens qui sont. On leur a dit or et léopard, ils ont fait or et léopard, quoi. Toi, tu t'es dit non, anti-conformisme. Mais par contre, ça te va très bien, ça c'est sûr.
Pas de doute, Coco, t'as le look qui te colle à la peau.
S'ils viennent nous expulser, nous, on revient.
À Notre-Dame-des-Landes, dans un bocage à 30 km de Nantes, la mairie et le conseil général du Parti Socialiste veulent construire un aéroport.
Mais depuis 40 ans, la population résiste à ce projet.
Et depuis plus de 2 ans maintenant, des gens s'installent illégalement sur les terres réservées au projet d'aéroport.
À Notre-Dame-des-Landes, s'ils viennent nous expulser, nous reviendrons.
Le quatrième samedi suivant les expulsions.
Contre l'aéroport et le monde qui va avec.
Grande manif de réoccupation.
Alors, ce qu'on vient d'entendre là, c'est un jingle qui a été fait en 2012 à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est, en 2012, un grand nombre de maisons qui sont occupées par des squatteurs et des squatteuses. Mais en fait, l'histoire, elle commence bien avant. Le projet de construction de l'aéroport, il commence dans les années 60, notamment en 66, c'est le moment où le conseil général il commence à acheter des terres aux propriétaires contre l'avis des fermiers qui les utilisaient et qui les exploitaient. Et déjà à ce moment-là, dans les années 70, dans la lignée de la gauche paysanne, il y a une résistance qui s'organise. Ces mêmes paysans qui ont organisé le ravitaillement de Nantes durant les grèves de 68. Alors pour rappel, en 68 à Nantes, les grèves et les occupations, ils avaient été tellement forts que les notables de la ville avaient fui, le préfet en tête. Hein, et du coup, pendant une semaine, c'était les syndicats qui géraient la ville. Après, il y a eu un retour de l'État, évidemment. Et en fait, du coup, ces paysans qui avaient fait le ravitaillement des grèves, à ce moment-là, ils décident d'occuper des fermes contre l'avis du département et ils vont installer des paysans. Toute cette agitation-là va faire retomber le projet. Et en plus de ça, en 73, il y a le choc pétrolier qui va rajouter un coup dans les pannes du projet. Et en fait, il va être réveillé dans les années 2000, où c'est le gouvernement et non plus le conseil général qui va relancer la machine. Et à ce moment-là, du coup, il y a un réveil des associations paysannes et citoyennes qui vont réorganiser la résistance, essentiellement sur un plan légal et médiatique. Et en 2009, il y a un camp climat qui va s'organiser, qui attire des centaines de personnes, essentiellement des jeunes, ayant fait leurs armes dans les mouvements écologistes internationaux, dans les contre-sommets, les mouvements qui agitent la jeunesse entre 2003 et 2007, et encore dans les squats urbains. Et à la suite de ce camp, il y a de nombreux jeunes qui s'installent sur la zone, donc sur la zone d'aménagement différé, et du coup ils vont occuper à la fois des terrains, mais aussi des maisons qui ont été laissées à l'abandon par le Conseil Général. C'est dans cette période-là que, du coup, il y a plein de squats qui vont s'installer. Du coup, il y a la maison des planchettes, le jardin des sabots, les fosses noires et plein d'autres lieux qui vont s'ouvrir. On va en compter des dizaines. Du coup, pendant plusieurs années, le mouvement d'occupation s'organise. Et en 2012, l'État déclenche l'opération César.
Toutes les constructions illégales ont disparu. Nous restons sur la zone pour contrôler, pour surveiller et utiliser tous les moyens légaux, là encore bien évidemment, pour prévenir de nouvelles reconstructions. Nous ne souhaitons absolument pas transformer en état de guerre permanent cette zone.
Mais en fait, si l'État gagne sur le plan militaire en premier lieu, en détruisant les fermes, en détruisant les cabanes, il va se heurter à tout un tas de techniques de résistance différentes qui vont être permis par l'ancrage de la lutte et de la solidarité des habitants. Les gens dans les arbres, les barricades érigées à l'aide de tracteurs, des cocktails Molotov, des grèves de la faim de paysannes, des tribunes intellectuelles, des centaines d'actions de solidarité dans toute la France et des messages de solidarité qui arrivent du monde entier vont mettre des grands coups dans l'opération. Mais ce qui va mettre un grand coup à l'opération César, c'est la manifestation du 17 novembre, durant laquelle il y a 40 000 personnes qui viennent porter leur détermination à résister au projet. Mais ils vont aussi amener avec eux des matériaux nécessaires à la reconstruction des habitats détruits et aussi de nouveaux habitats comme la châtaigne qui va servir à partir de ce moment-là de point d'accueil pour les groupes locaux qui ont été constitués dans toute la France et qui vont passer sur zone pour résister à l'occupation militaire. Et en fait, cette occupation militaire, elle va durer plusieurs mois en fait, jusqu'au printemps. Et après du coup, plusieurs mois d'occupation nuit et jour, la gendarmerie va finir par quitter la zone, renommée zone à défendre, où elle remettra les pieds de manière vraiment consistante qu'en 2018. Durant ces quelques années, le mouvement d'occupation et le mouvement contre l'aéroport il s'est structuré. Mais il y a aussi évidemment un certain nombre de conflits qui ont éclaté, que je ne vais pas résumer ici par manque de temps. Et au fur et à mesure des années, les recours se sont épuisés. Et les paysans sont devenus squatteurs de leur propre ferme. Et dans le même temps, les squatteurs, avec des dynamiques comme SEMTAZAD, vont eux aussi construire des outils de culture qui seront collectifs, qui servent à ravitailler les habitantes de la ZAD, mais aussi des luttes d'ailleurs. Dans ces quelques années, les, Les paysans vont finir par devenir squatteurs et les squatteurs paysans. On construira alors un phare, en pylône électrique en lieu et place de la tour de contrôle de l'aéroport, à côté de la bibliothèque du talus. On mettra en place des outils pour se passer de la police et de la justice dans la résolution des conflits. On organisera des chantiers collectifs pour récurer les fossés laissés à l'abandon par les institutions. En bref, durant quelques années, la ZAD s'est retrouvée à se gérer sans pouvoir public, l'État se limitant à des contrôles aux abords de la zone et à des menaces d'expulsion régulières. Le 17 janvier 2018, le Premier ministre déclare dépité l'abandon du projet d'aéroport après plus de 50 ans de lutte.
Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Cette décision est logique au regard de l'impasse dans laquelle se trouve ce dossier. Les terres retrouveront leur vocation agricole. Cette décision est une décision d'apaisement. Elle doit aussi être l'occasion d'un nouveau départ, l'occasion de construire différemment, intelligemment.
La suite, c'est pas mal d'embrouilles au sein du mouvement d'occupation entre celles et ceux qui veulent arracher des baux à l'État et celles et ceux qui refusent toute forme de légalisation. Aujourd'hui, avec la fin du projet d'aéroport et la vague d'expulsion qui a suivi, une bonne part des personnes qui étaient venues pour lutter contre l'aéroport et son monde sont parties, sur d'autres luttes ou pas. Pourtant, il reste de nombreuses personnes venant du mouvement d'occupation sur place, avec des dizaines de lieux toujours habités et des dynamiques collectives toujours présentes.
On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres. On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres. Notre-Dame des Landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livres et des sons. Notre-Dame des Landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livres et des sons. On ne veut pas de tant de temps, on ne veut pas de tant de fer pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame des fils de fer, Notre-Dame des routes et des ponts, Notre-Dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des bêtes à béton. Le vent du ciel est descendu, le verre. On ne veut pas que du ciel descende, descendre de morée de fer. Du ciel est descendu, le vent du ciel est descendu, le verre. On ne veut pas que du ciel descende, descendre de morée de fer. Pas de pistons d'oiseaux de fer, pas de fer en place des oiseaux. Que c'est triste un monde sans chef, que c'est cher un monde de sous. Pistons d'oiseaux de fer, pas de fer en place des oiseaux. Que c'est triste un monde sans chef, que c'est cher un monde de son. On ne veut pas de tant de temps, on ne veut pas de tant de fer pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame des fils de fer, Notre-Dame des routes et des ponts, Notre-Dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des bêtes à béton. On a mis tant de temps à faire et maintenant, tenant, tenant, et maintenant faudrait des faits. On a mis tant de temps, de temps, on a mis tant de temps à faire et maintenant, tenant, tenant, et maintenant faudrait des faits. La mort des fermes et du bocage, la mort des chemins des oiseaux, la mort des mains, la mort des bases, la mort du lait, la mort de l'eau. La mort des fers et du bocal, la mort des chemins des oiseaux, la mort des mares, la mort des vagues, la mort du lait, la mort de l'eau. On ne veut pas de tant de temps, on ne veut pas de tant de fer pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame des fils de fer, Notre-Dame des routes et des ponts, Notre-Dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des bêtes à béton. On ne veut pas de tant de temps, on ne veut pas de tant de fer. On ne veut pas de votre enfer, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame des fils de fer. L'autre jour en m'y promenant, j'ai vu le vol d'une hirondelle.
j'ai vu qu'elle avait du tourment. C'était le retour du printemps.
Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots d'amour.
Spécial dédicace au groupe Pipou du camp de Saint-Do, merci pour la Corée, signé Mahan.
Spécial dédicace à ma mère pour la fête des mères.
Spéciale dédicace à toutes les astrales rennaises, des sorcières comme les autres. Signé les bébés de Mille.
Seulement aujourd'hui, j'apprends que les trois poules ont des prénoms, mais quels sont-ils? Urgents.
Pickpocket, pickpocket.
Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit. Sans importance, mais ce sont des mots d'amour.
Militante féministe au quotidien et éclaireuse depuis longtemps, nous souhaiterions apporter un témoignage et partager notre questionnement quant aux relations actuelles entre les filles et les garçons. Depuis toujours, la société patriarcale partage les hommes et les femmes en leur attribuant des rôles différents. C'est une société genrée, renforcée par la tradition et la religion, entre autres. Le rôle des militantes féministes a été de s'extraire de ce schéma, de conquérir leur liberté et de modifier la structure sociale. Un dialogue a ensuite permis d'arriver à un partage et un consensus entre les hommes et les femmes, des consensus garantis par des lois. Premier, c'était le droit de vote en 1958, puisque les femmes ayant participé à la résistance autant que les hommes, c'est difficile de leur refuser. Ensuite, pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, 74-81, il y a eu la loi sur la contraception, le droit à l'avortement, le droit de travailler et d'avoir un compte chèque sans avoir demandé l'autorisation de son père ou de son mari. La mixité dans les écoles est arrivée en 1977, alors que la coéducation existe chez les EDF depuis 1964. Voilà autant d'éléments qui ont participé à un changement de relation entre les hommes et les femmes. Si ce dialogue est aujourd'hui établi, tout n'est cependant pas rose. La coéducation, le respect mutuel, la lutte contre les discriminations doivent être réaffirmés et vécus. La proximité, ce n'est pas le consentement à tout. Il faut éduquer les garçons et les filles dès leur plus jeune âge en leur fournissant une information ouverte, la plus ouverte possible, car ils sont confrontés à trop d'images et de propos sexistes, dégradants, qui les enferment dans une idée de la sexualité stéréotypée, voire dégradée. Les EDF ont fait le choix de la coéducation et du respect mutuel. Alors nous présenter aujourd'hui à Bécourt la foufoune rose, avec des affiches qui insistent sur les risques encourus, nous semble un peu contradictoire et peu propice à nous situer dans un cadre harmonieux pour les filles et les garçons. Et pour nous, il serait dommageable de remplacer une morale négative par une autre morale tout aussi négative.
Bécourt, 40+1, les coulisses.
Bécourt 40 plus 1,
Bécourt,
les coulisses.
Bécourt 40 plus 1, les coulisses.
Bécourt 40 plus 1, les coulisses.
Bécourt 48 plus 1, les coulisses.
Bécourt 40 plus 1, les coulisses.
La gingembrette.
La gingembrette. On te rendra.
Tu fais les aéros, c'est ça,
la gingembrette, écoutez, c'est une recette assez rapide en réalisation, pas très locale. Même si des initiatives se lancent par-ci, par-là. En revanche, c'est assez complexe au niveau culture. En revanche, reprenons un peu la recette, très aisée. Donc il faut un extracteur de jus, ça c'est moins aisé. Après il suffit juste de récolter le jus.
Du gingembre.
Du gingembre exactement, donc voilà, passez vos racines de gingembre, coupez-les avant, finement, pour un petit peu soulager la machine. Évitez, si vous avez une machine électrique, de l'utiliser plus de 10 minutes, si surtout elle est cheapos. En effet, son moteur ne fonctionnera ou peut casser et vous serez un peu déçu. Donc retour à Emmaüs, rachat de machine.
Voilà. Ça sent le vécu là.
C'est du vécu, c'est terrible ce qui m'est arrivé. Bref, ensuite du citron conséquemment, au moins pour un litre, mettez-en deux ou un, et puis ensuite vous faites au goût, et puis sucré aussi à votre goût, et plus ou moins de sucre.
Et de l'eau,
voilà. Sinon vous vous retrouvez avec une pâte assez, assez puissante. Voilà, donc avis aux amateurs de sensations, le jus pur est une expérience à vivre, un petit voyage intemporel qui vous restera béat sur vos deux pattes.
Et alors moi, parce que du coup, je viens goûter cette gingembrette là, que bon, ça, j'avais déjà goûté avant, mais là, je la trouve particulièrement réussie, et notamment, elle est limpide, homogène, il n'y a pas de trucs qui flottent, tout ça là.
Ceci est dû au grand volume utilisé, c'est-à-dire que comme le dépôt se retrouve généralement au fond, nous avons tendance à du coup avoir une concentration des précipités au fond de la barrique, bien que nous la remuons afin d'homogénéiser tous les ingrédients. De ce fait, nous avons une telle clarté.
Ah, d'accord. Et alors, dernière question, combien de gingembrette a été confectionné pour l'occasion ?
Alors, durant la préparation, nous avons lancé 10 litres qui ont été siphonnés. Et nous avons relancé dans des petits fûts 30 litres pour commencer. Et après, nous verrons par la suite la consommation de ces très chers et très chers participants aux 40 ans de la rencontre de Bécourt.
Très bien. Alors, c'est 1 euro la gingembrette au bar. Et c'est excellent, c'est très frais, sans alcool. La fête est plus folle.
T'as envie d'apporter tes idées ?
Ta contribution ?
De rencontrer des copains et des copines d'autres régions ?
On a besoin de toi. Rejoins-nous dans les groupes nationaux.
T'as envie d'en savoir plus ? Tu te poses plein de questions ?
Alors, deux options.
Viens discuter avec nous, les copains du CD.
On traîne dans la prairie.
Dans le fournil.
Dans le hameau.
On sera ravis de partager un moment avec toi.
Sinon, sur le panneau d'affichage, tu peux mettre ton nom et tes coordonnées et nous prendrons contact avec toi après les 40 ans.
C'était un message du comité directeur des éclaireuses et éclaireurs de France.
Salut Doriane, est-ce que tu peux nous parler un peu du projet de la ludothèque, tout ça ?
Eh ben oui, donc c'est la ludothèque Banane Persil parce que c'est la ludothèque de Doriane et d'Emile. Et du coup, c'est un projet qu'a lancé Emile en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Après de longues années en tant que respo et directeur sur des camps, il n'avait plus le temps pour faire à l'année et du coup, il ne voulait pas perdre le lien avec les éclés. Donc, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour rester avec les enfants ? Je vais les faire jouer. Et du coup, un bel été, on s'est rendus tous les deux ici avec la ludothèque à Bécourt pour la première ludothèque. D'ailleurs, tu y étais aussi et c'était fantastique. Donc, l'idée, c'est de proposer un lieu pour faire des activités jeux et des temps calmes jeux. Et ça marche avec les enfants, mais ça marche aussi avec les adultes. Et pour cette édition des 41 ans de Bécourt, on voulait faire une ludothèque adulte. Du coup, on a ramené le plus de jeux adultes possible.
Yes. Et est-ce que tu peux nous parler des jeux que tu as amenés là et que tu kiffes ?
Ouais, carrément. Alors, il y a des gros coups de cœur. Notamment, il y a un jeu qui s'appelle Big Monster et qui est absolument fantastique parce qu'on joue tous en même temps. On joue en duo, enfin c'est des affrontements de duo. Et l'important, c'est pas de faire beaucoup de points soi, c'est que le duo fasse beaucoup de points puisque c'est le plus faible score des deux qui compte pour gagner. Et du coup, c'est un jeu où on pose des petites tuiles, on fait un assemblage pour faire le plus de points possible, on essaie de faire des combos. Et si t'es très très fort, tu fais plein de combos et tu fais plein de points, mais en fait tu t'es pas occupé de ton partenaire et que tu lui as pas passé les cartes qui lui permettent lui aussi de faire des combos, et ben tu perds. Du coup, c'est vraiment un jeu d'affrontement, mais avec une coopération très importante. Et ça, c'est super. Et... qu'est-ce que j'ai d'autre comme jeu trop bien ? En ce moment, on joue au Go. Tu connais le Go ?
De nom, mais alors j'ai jamais joué au Go. Mais ça m'a l'air très compliqué, non ?
Non, c'est très simple. Il faut juste poser des pierres blanches contre des pierres noires. Et puis, les pierres noires mangent les blanches mangent les noires. Vraiment, sur le fond, c'est très simple. Hein.
C'est comme de dire que les échecs, c'est très très simple, quoi. C'est la partie, quand on a envie de bien jouer, que ça devient compliqué, c'est ça ?
Ouais, voilà, c'est ça. Quand on est né dedans, ça a l'air vachement bien, mais quand on apprend adulte, c'est un peu différent. Il y a d'autres jeux qui sont vraiment, vraiment chouettes. Et en fait, tous les jeux sont vraiment, vraiment chouettes, ceux qu'on a amenés. Et pour aider les gens à se décider, j'ai créé un organigramme décisionnel avec tout un cheminement pour trouver le jeu de la journée, du moment, qui correspond à la situation du moment.
Du coup, si jamais les gens viennent mais ne savent pas à quoi jouer, ils peuvent se retrouver facilement à trouver un jeu qui leur correspond, quoi.
Mais c'est sûr qu'ils vont trouver le jeu qui leur correspond. Et si vraiment l'organigramme a une petite défaillance, on ne sait jamais, c'est possible, hein, ben, y a toujours Émile ou moi ou quelqu'un qui connaît bien les jeux et qui est là pour aider à choisir et pour expliquer les règles et éventuellement pour jouer avec aussi.
Yes, merci.
Vous écoutez Les Éboueuses.
La chronique des Éboueuses.
Et on vous dit merci, monsieur Poubelle, pour cette géniale idée nouvelle. Et on vous dit merci, monsieur Poubelle, grâce à vous, la planète est plus belle.
Les Éboueuses, chronique numéro 3, détour sur un déchet féminin. Depuis quelques années, j'ai aiguisé ma conscience écologique et j'ai modestement réduit une portion des déchets que je produis, celle de mes protections menstruelles. La solution qui me convient, à moi, c'est les serviettes hygiéniques lavables. C'est pas tant de travail pour les laver, elles sont plus confortables que le jetable et en plus, j'adore les dessins. Pourtant, cela me pose un cas de conscience. L'apparition des serviettes hygiéniques jetables, ça a été un réel progrès pour les femmes. En fait, j'ai l'impression de remettre en question la technologie qui a permis à ma grand-mère d'améliorer sa qualité de vie. Est-ce que l'on troque le confort des femmes contre l'écologie ? Alors, intéressons-nous un peu à comment les femmes ont géré leur menstruation au cours des siècles. Il y a des sociétés dans l'Antiquité où les femmes utilisaient des tampons, par exemple en papyrus pour les femmes nobles égyptiennes. Mais l'apparition des courants religieux monothéistes n'ont pas encouragé cette pratique, la jugeant impure. Au Moyen-Âge, globalement, les femmes ne portaient pas de sous-vêtements, pas de culottes, pas de serviettes forcément. Le sang s'écoulait et les jupons jouaient le rôle d'absorption. C'est seulement après la Révolution française que l'on voit apparaître l'ancêtre de la culotte chez les femmes. À la Première Guerre mondiale, les infirmières utilisent des bandes type bandage pour absorber leur flux menstruel. Des sociétés industrielles s'en inspirent pour produire les premières serviettes industrielles dans les années 20. Les tampons jetables sont commercialisés pour la première fois aux États-Unis dans les années 30. C'est en 1963 que l'on trouve des serviettes hygiéniques jetables dans les grandes surfaces françaises. Alors à écouter les femmes plus âgées que moi, les protections jetables ont apporté un réel gain de temps et de confort. Bon, en parallèle, d'autres technologies plus durables voient le jour. Notamment l'apparition de la coupe menstruelle dont le premier brevet a été déposé dans les années 30. Ça a bien mis le temps pour se démocratiser. Merci les lobbies du jetable, mais là je crois qu'on y est. J'ai vécu mon adolescence dans les années 2000. À l'apparition de mes règles, c'est évidemment vers les serviettes et tampons jetables que je me suis tournée et on fait avec son époque. Bien sûr, sur le plan écologique, c'est une catastrophe en termes de déchets. On estime qu'une serviette hygiénique se décompose en 5 à 800 ans. Et puis, utiliser un tampon ou une serviette hygiénique jetable, ce n'est pas si anodin que ça pour l'organisme. On y trouve, à faible dose, mais il en faut pas beaucoup, un certain nombre de molécules perturbatrices sur le plan endocrinien ou des substances cancérogènes. Il faut aussi savoir qu'elles sont blanchies au chlore. Une des molécules que l'on y retrouve significativement après ce traitement, c'est la dioxine. C'est une des molécules qui constitue l'agent orange que les États-Unis ont massivement déversé sur les cultures vivrières et les forêts au Vietnam pendant la guerre, et aussi au Laos, Cambodge, Corée. Même à très faible dose, le corps humain stocke cette molécule à long terme dans les cellules adipeuses. Ça provoque notamment chez la femme le développement de l'endométriose. À y penser, le jetable vient participer aussi au tabou qui entoure les règles. On ne voit pas les protections trempées dans un lavabo, séchées au soleil ou bouillir dans une casserole. Les protections jetables sont enfouies au fond d'une poubelle, bien emballées dans du papier toilette, c'est fini, on n'en parle plus. Et puis, en termes de moyens, c'est aussi un certain budget. J'ai une pensée assez forte pour toutes ces femmes qui ne peuvent pas gérer leurs écoulements menstruels sereinement faute de moyens. Bon voilà, c'était l'histoire d'un déchet qui concerne beaucoup de femmes. J'espère que ça vous a éclairé. Bisous.
Et on vous dit merci, monsieur Poubelle. Grâce à vous, la planète est plus belle.
Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode pour lequel nous avons recensé différents conseils de personnes et clés expérimentées. Avant de partir en camp, voici les conseils qui vous sont livrés pour être serein et sereine. Kireg, Baribal et Malo font leur sac, tout comme Guillaume qui en fait un gros check-up de tout le matos PEDA qu'il emporte. Florence nous précise de bien penser à sa frontale car c'est le plus important. C'est vrai que si on oublie son couteau, il y en a toujours sur place. Pour tout ça, on peut utiliser la technique de l'or qui fait plein de listes et de tableaux. Kireg nous dit de bien penser à recharger tous nos appareils à batterie. Un peu en amont parce que si on fait tout le soir même, les plombs ont tendance à sauter. Guillaume et Malo prennent le soin de dire au revoir à leurs copains-copines. Cécile, elle, nous suggère de dormir beaucoup ou de faire au moins une grosse grasse mat comme Guillaume. D'ailleurs, pour le sommeil, Alice affirme qu'il est indispensable de prendre des boules quies. Laure ajoute qu'il faut aussi une petite tablette de chocolat dans son sac. Maëlys et Jules, quant à elle, suggèrent une bonne douche et un gros caca. Pour un retour de camp en toute tranquillité, même si c'est toujours dur et que Laure n'a toujours pas trouvé de remède miracle, Florence nous explique qu'il y a deux options. Faire un autre camp ou dormir. Cécile, Malo, Guillaume, Maëlys et Jules optent pour la deuxième choix, avec une bonne douche aussi. Guillaume, lui, prend un bain, suggère un temps de repos d'au moins 3 jours, quand Maëlys propose plutôt de dormir pendant 4 ans. Kireg nous livre une astuce bien originale. Il faut se faire une nuit bien rude avant de regagner son lit pour pouvoir profiter au maximum du confort. Guillaume, lui, nous conseille de se faire inviter à manger un truc bien gras. Pour lutter contre la solitude, Baribal propose une soirée réponse. Kireg nous dit de ne pas se retrouver seul tout de suite, mais de plutôt se créer un espèce de sas avec du collectif avant de rentrer chez soi. C'est exactement ce que nous décrit Laure quand elle explique qu'il faut 2-3 jours pour réduire petit à petit le groupe de copains-copines. Alice propose de s'asseoir seule sur son lit parce qu'on en rêve pendant tout le camp de ces moments de solitude, puis ensuite de regretter un peu le collectif quand même. Pour finir, Maëlys nous dit qu'il faut prendre le temps de tenter d'expliquer à ses proches à quel point c'était de la frappe et pleurer seule, pleurer suffisamment pour se laver avec ses larmes. Ah là là, que d'émotion. Rien à voir, mais vous avez peut-être vu passer l'homme pancarte avec les questions « tu préfères ». Plus de 80 personnes y ont participé. L'unité préférée est celle des éclés, avec 39 voix. Puis les louveteaux-louvettes, les lutins-lutines et enfin les aînés, qui ont été ajoutés après que les premiers votes aient été exprimés. C'est un petit peu de la triche. Désolée Flo, mais seulement 2 personnes ont affirmé préférer la branche des adultes en formation. Pour les jeux, c'est le poule-renard vipère qui l'emporte, face à la tech, avec 40 voix contre 27. La Sioul a eu beaucoup de succès, mais surtout parce que c'est des mecs qui ont triché. Bouh ! Allez, c'en est fini, à bientôt et bonne anif, Bécourt. La Sioul a eu beaucoup de succès, mais surtout parce que c'est des mecs qui ont triché. Bouh ! Allez, c'en est fini. À bientôt et bonne année, je vais court.
Ouais, ouais, Radio B.
Alors Michel, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'AE?
Alors l'AE, c'est une association de loi 1901 qui s'appelle Association des anciennes éclaireuses et éclaireurs. Voilà, alors c'est une association qu'ils ont associée aux EDF, qui regroupe en son sein non seulement des anciens EDF, mais aussi des anciens EDF, des anciennes FFE et des anciens éclaireurs français.
Donc toutes les personnes,
voilà, toutes les
qui
personnes
sont passées qui ont... par le scoutisme laïque, on va dire.
Exactement,
peu.
Exactement. Alors le but, pourquoi y a-t-il une association à côté, alors qu'il pourrait y avoir, l'AE pourrait être, si tu veux, un peu des JAE, adultes,
ouais.
une nouvelle branche. Or, l'association a jugé que les EDF actuels étaient une société de jeunes, pour les jeunes et animée par les jeunes.
Mmh.
Et si on y met dedans des adultes, ils vont avoir tendance, si tu veux, à dire de mon temps, etc., etc., et à faire une sorte de tutelle sur les jeunes, et les jeunes n'auraient plus la parole. C'est pour éviter, si tu veux, que les anciens imposent leur point de vue sur les jeunes, qu'on a voulu mettre une association à côté et non pas intégrée. Voilà pourquoi on a regroupé tous les anciens. Alors, le terme, ce qui est difficile, c'est le terme d'ancien.
À partir de quand on est ancien ou...
Voilà, voilà. Parce que si tu veux, on est ancien, à partir du moment où tu as arrêté d'appartenir aux éclés.
Mmh.
Un lutin, qui pour des raisons, parce que ses parents déménagent, j'exagère je pense, mais est un ancien.
D'accord.
On n'est pas uniquement ancien par l'âge.
D'accord.
Or aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe. Quand on demande par exemple à quelqu'un qui a été responsable, pourquoi ne viens-tu pas nous donner un coup de main, mais ce n'est pas encore de mon âge.
Et toi, quand est-ce que tu es rentré dans l'AE alors?
Alors, dans l'AE, j'y suis rentré en 1980.
D'accord.
Tu vois, j'étais responsable de groupe,
mmh.
Et puis j'ai dit maintenant, il faut un peu laisser la place aux jeunes. Ça ne veut pas dire ne pas, continuer l'esprit éclaireur un jour, éclaireur toujours.
Mmh.
Alors, le rôle de l'AE, c'est effectivement d'être à côté, d'accompagner les éclés, d'apporter une aide,
okay.
Tu vois, ne pas s'imposer.
Okay.
On est ici, par exemple, à Bécourt, nous sommes un certain nombre de membres de l'AE, qui venons donner un coup de main aux éclés pour l'organisation de Bécourt.
Et ouais. Alors du coup, à l'AE, quand vous vous réunissez, donc tu dis qu'il y a une partie des activités qui consiste à venir donner des coups de main quand il y a besoin aux EDF. Et est-ce que vous faites d'autres choses entre vous?
On fait d'autres choses entre nous, bien sûr, parce que ça serait finalement très limité. Alors tout dépend des régions, puisqu'on est structuré aussi régionalement, un peu comme les EDF. Ça permet, disons, à ses membres de se retrouver fréquemment, soit pour faire des sorties, soit pour faire une chorale, soit pour faire des visites touristiques ou disons historiques.
Pour continuer à vivre des activités de
voilà,
type éclair.
Exactement. Mmh. Et en plus, on fait nos propres camps, qu'on appelle des SADA.
Les fameux SADA.
Voilà, les fameux SADA, séjour, amitié, détente, aventure,
mmh.
Mais qui ne sont pas, comment dirais-je, calqués tout à fait sur les camps. Parce que
il n'y a pas de jeunes encadrés, quoi.
Il n'y a pas de jeunes encadrés. C'est un peu plus égoïste, puisque c'est pour se faire plaisir à soi. Et d'autre part, il y a aussi là quand même la notion de l'âge.
Mmh.
Parce que dans notre association, malgré nos efforts, ce sont éventuellement, essentiellement, des gens en âge.
Mmh.
Je ne vais pas dire âgés, des seniors.
D'accord.
Donc on ne peut pas faire un camp réel sous tente comme on le connaît. Mais on garde le même principe, c'est-à-dire qu'on découvre la région. On découvre, comment dirais-je, les gens de l'environnement. Je te cite par exemple, on a fait des camps à l'étranger.
Ouais.
Récemment, nous avons fait un séjour à Madagascar.
Mm-hmm.
Et on a rencontré les Kiades, qui sont l'équivalent des éclaireurs de France, puisqu'ils étaient éclaireurs de France de Madagascar, et qui se sont transformés en Kiades. On a été reçus par eux là-bas. Donc on a continué, si tu veux, à pratiquer un petit peu le scoutisme tel qu'on le connaissait quand on était un peu plus jeune.
Mmh.
Voilà. Et le soir, le soir on fait des veillées.
Vous comme chantez.
On chante, on fait des sketchs, tu vois, etc.
Et vous avez un journal.
Et nous avons un journal, Trait d'Union, que j'ai là-bas, que j'ai distribué partout, enfin que j'ai distribué, c'est un mauvais mot, hein, que j'ai mis à la disposition de tous les participants.
Vous pouvez en récupérer plusieurs exemplaires sous la tente qui est en face de la caravane d'accueil.
Tout à fait, on les a mis par liasse avec un petit caoutchouc autour. Ça veut dire que ce n'est pas le même numéro, mais il y a plusieurs numéros regroupés, ce qui permet au lecteur de voir un petit peu la variété de ce que nous faisons. Voilà.
Et alors du coup, parmi les gens qui sont à Bécourt, là, tu aurais envie de dire à qui ou quoi pour donner envie aux gens de rejoindre la
mais écoute,
dans quelques temps ou maintenant.
Mais oui, disons qu'il y a une richesse de gens. J'ai vu des anciens responsables de groupe, j'ai vu des anciens membres de l'équipe nationale ou du comité directeur, bon, qui sont encore pour qu'ils soient ici, c'est qu'ils sont empreints effectivement de l'état d'esprit, hein, éclaireur. Et c'est dommage qu'ils ne viennent pas, si tu veux, nous retrouver pour pouvoir essayer de continuer l'expansion de cet état d'esprit. Mais, parce qu'il y a un mais que j'ai constaté, c'est que venir à l'AE à titre solitaire, c'est une erreur. Donc l'idée, c'est que, par exemple, des responsables d'un groupe ou d'une activité se retrouvent entre eux, et si localement, géographiquement, ils peuvent être associés, devenir ensemble pour se retrouver au sein de l'AE, mais de se trouver ensemble, pour qu'ils aient ensemble des souvenirs à raconter. Si tu mets un ancien au milieu d'autres anciens, mais qui n'ont rien à voir entre eux, c'est l'échec.
Ça ne prendra pas.
Ça ne prendra pas, c'est l'échec. Alors écoute, sur le mouvement, moi ce que je voudrais faire comprendre surtout, que ce n'est pas une association d'anciens combattants, c'est ça qu'il faut éviter, où il n'y a que des vieux. Et notre gros problème, effectivement, c'est que dans la réalité des faits, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et on est une association qui est actuellement vieillie de plus en plus au point de vue âge. Mmh. Il faudrait effectivement que des jeunes aujourd'hui, qui n'ont plus le temps, des adultes qui n'ont plus le temps, pour des raisons familiales diverses, de continuer leur militantisme au sein des éclés, puissent venir avec nous, passer de bons moments ensemble avec des gens qu'ils ont connus, sans pour autant, si tu veux, être contraint de s'engager aussi fondamentalement que dans un groupe local.
Bécourt, 40+1, les coulisses.
Bécourt, 40+1, les coulisses.
Bécourt, 40+1, les coulisses.
Bécourt, 40+1, les coulisses. Bécourt, 40+1,
les coulisses. Franchement, comme truc pour faire de l'ASMR, je pense que c'est super bien.
C'est clair, c'est trop bien. Par contre, je pense que sur les banques de données en ligne gratuites, on en trouve déjà plein de
trucs. Oui, mais...
quand il y a joie, il y a rabat-joie.
Mais en fait, c'est quand même vachement mieux d'avoir le nôtre, tu vois.
Moi, t'es vraiment pas... Moi, je suis poétique. Tu vois, c'est ce que... Développe ton temps de poète sur la radio.
Non, c'est consommation locale. On va pas acheter du bruit de feu.
C'est clair. Sur Internet, sur Amazon.
La Chine, même par des enfants du Bangladesh.
Des cours, 40+1, des quiz.
Les éclaireuses ont 100 ans. Dans cette dernière chronique qui balaye le siècle depuis la naissance de la Fédération française des éclaireuses, on va s'intéresser à des professions comme infirmière visiteuse, surintendante d'usine, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, assistante sociale à... Tous ces noms nous disent l'histoire de la structuration des professions du travail social au XXe siècle. Et en fait, de nombreuses femmes passées par le scoutisme y ont participé. Cette chronique va tenter de donner quelques éclairages à ce sujet, sachant que je fais ça un petit peu à l'arrache. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises, mais je suis quand même nettement moins calée sur ce sujet-là que sur les deux chroniques précédentes. Au moment de la Première Guerre mondiale, on a l'émergence de deux métiers spécifiquement féminins, que sont les surintendantes d'usine et les infirmières visiteuses. Alors c'est quoi une infirmière visiteuse ?
c'est l'idée de développer la fonction sociale des infirmières. Prend vraiment une dimension importante au moment de la Première Guerre mondiale, puisque au-delà des soins apportés aux blessés, notamment des blessés de guerre, les infirmières visiteuses, elles vont devenir les chevilles ouvrières des nouvelles luttes contre les fléaux sociaux, les maladies sociales donc liées à la proximité et à la contagiosité. C'est notamment une période où la tuberculose est très répandue, notamment dans les rangs de l'armée, mais du coup aussi dans le cadre des populations civiles. Et la tuberculose, c'est une maladie très contagieuse. Et donc la question sociale devient une question importante liée aussi à la réflexion sur les conditions de travail, les conditions de vie, les conditions d'hygiène, de logement, puisqu'on commence à comprendre que tout ça est propice à la diffusion de maladies à caractère social. L'autre métier qui émerge au même moment, c'est celui des surintendantes d'usine. Alors, c'est pas simple de comprendre exactement c'est quoi les surintendantes d'usine. C'est des femmes qui, en fait, sont infirmières à l'origine. On leur donne la mission d'implanter des services sociaux dans les usines pour les femmes au moment de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire au moment où les femmes rentrent massivement dans les usines, avec la mission de promouvoir une organisation du travail qui protège et en même temps encadre les ouvrières contre les risques professionnels. Donc à la fois, elles doivent un peu organiser le travail des femmes, mais aussi mettre en place des services comme des infirmeries, des crèches, des cantines dans les usines. Donc c'est à la fois un poste d'encadrement un peu à l'interface entre les patrons et les ouvrières, mais qui est tourné vers les besoins sociaux des ouvrières. Une des figures vraiment très importantes de ces deux professions, donc les infirmières visiteuses et les surintendantes d'usine, c'est Marie Diemer. Marie Diemer, c'est une femme qui est issue d'une famille protestante bourgeoise qui découvre lors d'un voyage à Londres un truc qu'on appelle un settlement social, c'est-à-dire un lieu qui est situé dans un quartier ouvrier et qui permet à des personnes bourgeoises d'y vivre et de partager leur savoir ou leur temps pour aider les plus pauvres. Donc si vous avez suivi la première chronique sur la naissance du scoutisme féminin, ça vous rappelle un peu un truc, c'est un peu la même démarche que celle qui a donné naissance au scoutisme féminin. En tout cas, lors de cette visite à Londres, elle prend conscience de la situation sociale en France. Quand elle rentre au Congrès international des femmes, elle rencontre Renée de Montmort, qui va devenir sa grande copine, et ensemble, elles vont commencer à participer de manière hyper active à la création de ces deux professions. Donc notamment, en 1914, elle participe à l'Assemblée générale constitutive de l'Association des infirmières visiteuses de France, et elle commence à créer un dispensaire de lutte anti-tuberculose à Paris. En 1917, juste après, elle participe à la création de l'école des surintendantes d'usine dont on a parlé, qui d'ailleurs sera la première école laïque, on va dire, de travail social en France. Un peu plus tard, Marie Diemer, pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'en fait, elle n'a pas été éclaireuse, mais elle a été guide. Et notamment, en fait, elle découvre le scoutisme pendant la Première Guerre mondiale et elle commence à vouloir développer le scoutisme pour les filles un petit peu avant la fondation des guides de France. Dès 1922, elles organisent ensemble des camps internationaux de scoutisme féminin en France, avec à l'époque les éclaireuses qui viennent de naître et les guides qui ne sont pas encore nés et qui naîtront qu'en 1923. Marie Diemer, c'est aussi elle qui, en 1925, crée au sein des guides de France la branche des Jeannettes, c'est-à-dire la branche des Louvettes chez nous. La profession d'infirmière visiteuse, elle va se développer jusque dans les années 30. En 1932, va être créé le diplôme d'état d'assistante sociale. Et en fait, la profession d'infirmière visiteuse va devenir la profession d'assistante sociale à cette période-là. En ce qui concerne le métier des surintendantes d'usine, une femme qui a joué un rôle important dans ce métier-là, c'est Jeanne Civadon. Jeanne Civadon, elle est d'une ancienne famille protestante d'Ariège. Elle est éclaireuse neutre, donc à la Fédération française des éclaireuses. Elle est aussi cheftaine. Et elle entre à l'école des surintendantes d'usine et elle dirige ensuite une maison pour enfance en difficulté. Et à partir de 1933, elle devient formatrice à l'école des surintendantes d'usine. Et elle en devient même après directrice à partir de 1939. Jeanne Civadon, elle va avoir comme particularité de faire de l'école qu'elle dirige, qui est une grande école des surintendantes d'usine en France, un peu une sorte de centre de liaison et de coordination de plein de groupes résistants et résistantes pendant la guerre. Et du coup, ça fera aussi qu'elle deviendra membre du comité directeur du mouvement Combat en zone nord, qui est un des principaux mouvements de la résistance. Jeanne Civadon, elle sera aussi chargée de la création du diplôme d'État de surintendante d'usine. En fin de carrière, elle dirigera le service social des trois armées françaises. Une autre profession qui se structure au fil du XXe siècle, c'est celle d'éducateur-éducatrice spécialisée. Là, la structuration est particulièrement complexe, notamment parce qu'en fait, il y a plein de champs d'intervention différents, le handicap, la protection de l'enfance, la prévention, etc. Donc j'ai un peu du mal à tout résumer. Globalement, à partir des années 1920-1930, il y a l'émergence d'une idée de nécessité de professionnels spécifiques pour accueillir, observer et aussi trier des enfants confiés à des institutions, soit parce que c'est des enfants dits délinquants, on va parler de l'éducation surveillée, soit parce que c'est des enfants qui ont besoin plus de protection parce qu'ils ont un handicap ou parce qu'ils sont orphelins ou que leur famille ne s'occupe pas d'eux. Donc ça va s'appeler plutôt l'enfance inadaptée. Dans ce bouillonnement de tentatives, de courants pour essayer de professionnaliser cette fonction-là, il y a des éclaireuses aussi et des femmes passées par le scoutisme qui s'impliquent. Pour citer le parcours de l'une d'entre elles, il s'agit de Dominique Ril. Donc elle est éclaireuse unioniste à Strasbourg. D'abord, elle est institutrice et elle se forme à la psychologie. Elle va vouloir réformer les maisons de rééducation pour jeunes filles en recrutant des femmes issues du scoutisme pour les postes auprès des enfants, d'encadrement des enfants, à la place d'un personnel qui est plutôt pénitentiaire. Elle met aussi en place un système d'équipe de vie, comme les équipages aujourd'hui, avec les jeunes filles pour essayer de développer la vie au sein de l'institution. Plus tard, elle sera membre de commissions consultatives sur l'enfance délinquante et socialement inadaptée, et elle sera aussi inspectrice d'établissement pour l'éducation surveillée. Une autre femme qui joue un rôle dans l'émergence bouillonnante de cette profession d'éducateur éducatrice spécialisée, c'est Germaine Le Guillan. Donc elle est née dans une famille pauvre de pêcheurs en Bretagne. Elle devient cheftaine d'éclaireur aux EDF et elle passe ensuite directrice d'une maison d'enfants pendant la guerre, une maison qui est soutenue par le régime de Vichy mais dont elle fait un lieu pour cacher des jeunes enfants juifs. Après la guerre, elle s'engage au CMEA, les centres d'entraînement aux méthodes actives, qui sont aujourd'hui une des principales associations de formation BAFA BFD en France et qui ont une histoire commune avec les éclaireurs de France. À cet endroit-là, comme le secteur donc, de l'enfance inadaptée et de la protection de l'enfance est en structuration, les CMEA décident d'ouvrir des maisons d'hébergement pour des jeunes orphelins. Et Germaine Le Guillan, elle va tenter l'extension sur 3 mois, du stage de formation habituel des moniteurs de colonies de vacances pour former ces moniteurs-là à devenir des moniteurs éducateurs spécialisés pour les enfants placés. Germaine Le Guillan, elle est aussi intéressante parce qu'elle contribue à l'émergence d'une autre profession dont on n'a pas encore parlé, qui est celle d'infirmier ou infirmière psychiatrique. En fait, avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas d'infirmiers, infirmières psychiatriques. Globalement, il y a des gardiens d'asile. On est sur une psychiatrie qui est basée sur l'enfermement dans des établissements qui s'appellent des asiles. Donc après-guerre, il y a des psychiatres militants qui, eux, vont vouloir essayer de faire sortir la psychiatrie des établissements, d'ouvrir la psychiatrie vers la ville. C'est ce qu'on va appeler le mouvement des aliénistes. Et dans cette démarche-là, ils vont vouloir notamment créer une réelle formation pour les infirmiers psychiatriques pour avoir un personnel soignant, compétent et pas des gardiens d'établissement. Germaine Le Guillan, elle est salariée des CMEA et en 1946, elle rencontre un psychiatre qui s'appelle Georges Daumaison, qui se trouve être aussi passé par le scoutisme. Il a été éclaireur unioniste et ensemble, ils décident de créer en 1949 le premier stage de formation des infirmiers psychiatriques en France. C'est vraiment un stage qui est basé sur la logique des stages BAFA. Donc, c'est un stage où on mêle l'apprentissage de la vie quotidienne en collectif, comme en stage BAFA, avec l'idée que la vie quotidienne au sein d'un établissement psychiatrique, c'est important pour le soin et pour l'accompagnement des patients. Et en parallèle de ça, il y a des apprentissages plus spécialisés sur les questions de santé mentale et de psychiatrie. C'est des stages qui ont beaucoup de succès, qui contribuent vraiment à la création de la formation et de la profession d'infirmier psychiatrique en France. Globalement, ces différentes professions qui se structurent au fil du XXe siècle sont assez marquantes d'un processus de professionnalisation d'activités qui étaient traditionnellement féminines et qui soudainement deviennent des métiers, des professions. Les guides et les éclaireuses dont j'ai parlé, elles s'impliquent tout particulièrement dans la création d'écoles et de lieux de formation au-delà de l'organisation de la profession, avec cette idée que le bénévolat féminin ne suffit plus dans ce domaine-là et qu'il convient de faire de ces questions sociales, une occupation professionnelle.
Je suis en vacances, je danse à la mer. Je suis en vacances, je voyage dans l'univers. Je suis en vacances, je danse sur les plages de l'aiguillon. Le chevalier.
j'ai de la chance. L'été c'est magique, c'est la meilleure saison. Je me suis baignée dans la mer à plein neuf, il fait du soleil. On a joué avec les loups, nous avons mangé des glaces, c'était super, il y avait du vent. Je suis en vacances.
Ces vacances en Bretagne, c'est nul, j'en ai marre. C'est quoi ce bête pourri, gling-gling, toutes ces vaches, leurs clochettes. C'est quoi ce cliché, ça me fait brerber. Brebis pourri, arrêtez de ricaner. Le bruit de la cornemuse, moi ça m'use. La pluie, le froid, les vaches, les brebis. Je crois que je me fais une dépression. Jour 1, tous mes amis sont partis en vacances. Jour 2, 2000 km en voiture, c'est quand que ça s'arrête. Ma vie s'arrête, période de l'année scolaire meurtrière. Tic-tac, le temps s'arrête, je détraque. J'ai plus mon mac, ratatac, les bouchons sur la route vers la mer. Merde, qu'est-ce que je fous ici.
Pour les vacances, je suis allé à la campagne. Je me suis ennuyé, toute cette pollution. Les agriculteurs qui lâchent des pesticides dans les champs. Purée, c'est quoi ces vacances? Je suis en vacances.
Et pour celles et ceux qui veulent s'ambiancer... Yeah. Et pour celles et ceux qui veulent s'ambiancer... Ah. Et pour celles et ceux qui veulent s'ambiancer... Et pour celles et ceux qui veulent s'ambiancer à partir de minuit, le Moon Night Club sera ouvert à partir de minuit. Et ce... Mais j'ai dit deux fois à partir de minuit, ça ne marche pas. C'est super chiant. Et pour celles et ceux... Yeah, yeah, yeah. Et pour celles et ceux qui veulent s'ambiancer jusqu'au bout de la nuit... La Moon Night Club sera ouvert jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la nuit, ouais, ouais. Et pour telles et ceux qui veulent s'ambiancer jusqu'au bout de la nuit, la Moon Night Club sera ouvert jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la nuit, ouais, ouais.